Politiste dans la Cité, le podcast de l'Association française de sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans Politiste dans la Cité, le podcast qui vous parle des sciences du politique et de leur contribution à la vie politique en France et à l'étranger. La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier. Fait par des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Chloé et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Damien Simoneau pour parler du conflit israélo-palestinien. Bonjour Damien Simoneau.
Bonjour.
Damien Simoneau, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales situé à Paris, où vous enseignez notamment les relations internationales depuis 2021. Vos recherches portent sur les politiques de sécurité frontalière aux États-Unis, en Israël, en Palestine et en Europe. Vous avez réalisé votre doctorat à Sciences Po Bordeaux et vous l'avez soutenu en 2015 au travers d'une thèse intitulée « Il nous faut une barrière, sociologie politique des mobilisations pro-barrières en Israël et aux États-Unis », thèse réalisée sous la direction d'Evelyne Ritten et que vous avez publiée en 2020 aux éditions Peter Lang sous le titre « L'obsession du mur, politique de militarisation des frontières en Israël et aux États-Unis ». Dans vos recherches, vous croisez une réflexion sur les dispositifs de sécurité et sur la notion de frontière. Je mentionnerai par exemple quelques publications récentes, un article avec Pietro Castelli-Gattinara dans Critique internationale qui s'intitule « Prendre part aux logiques d'exclusion, les mobilisations anti-migrants en France, en Italie et aux États-Unis » qui est paru en 2019. Un autre aussi dans Études internationales qui s'intitule « Construction de la menace et construction des problèmes publics, les mobilisations pro-barrières frontalières de l'Arizona » qui est paru en 2018. Et donc on voit dans vos travaux une tentative de réconcilier, en tout cas de mettre en lien, les questions dites internationales ou de géopolitique avec les recompositions des sphères politiques nationales et des mobilisations sociales au niveau local. Et c'est en partie le lien qu'il y a avec le sujet du jour. Puisqu'à la suite du 7 octobre 2023 et des massacres commis par le Hamas en Israël, vous êtes très tôt intervenu dans les médias, fort de votre terrain en Israël et Palestine, mais fort aussi de votre expertise sur les murs, les dispositifs de sécurité et les mobilisations qu'elles génèrent. Vous avez, comme d'autres, contribué à faire entendre la voix des sciences sociales dans un contexte extrêmement polarisé et conflictuel, que ce soit dans le champ médiatique, politique, mais aussi universitaire. Une conflictualité qui était déjà évidemment là dans tous ces mondes, mais qui a été redoublée par les attentats du 7, par la guerre et par l'escalade de violence et de morts à Gaza depuis des mois. Un sujet difficile dans lequel parler, en parler, est déjà une manière de s'exposer, mais dont précisément dans un podcast consacré à la question de l'intervention des politiques dans l'espace public, on ne pouvait pas ne pas parler. Alors un grand merci Damien Simoneau d'avoir accepté notre invitation. Et avant tout, la question rituelle, qu'est-ce que cela signifie pour vous être un politiste dans la cité ?
Alors pour moi, c'est ne pas se situer seulement du point de vue de la résolution d'un certain nombre de problèmes, mais véritablement de porter une voix critique. Je reprends un classique des relations internationales, Robert Cox, 1981, dans son article de Millennium, où il interroge justement la différence entre la théorie critique et le problem solving, résolution de problèmes. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est tout simplement interroger des discours dominants, des pratiques, être quelque part interroger la manière dont on produit nous-mêmes notre savoir et le savoir que l'on porte sur le monde. Et puis, c'est aussi insuffler quelque part cet esprit d'enquête, une méthodologie particulière pour découvrir les sociétés, pour tout en faisant preuve, bien évidemment, de vigilance épistémologique par rapport à des discours ambiants, à des notions qui sont véhiculées dans le sens commun. Pour moi, c'est ça, être politiste de la cité, c'est vraiment ce rôle-là.
Alors, vous avez tout de suite entamé avec cette idée de critique. Alors, on va voir comment vous avez construit ce regard critique sur le monde. Déjà, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre trajectoire et notamment sur le lien entre vos recherches sur les murs et le conflit israélo-palestinien ? Est-ce que c'est l'intérêt pour les murs et les frontières qui vous a mené sur ce terrain et sur ce conflit ou plutôt l'inverse ?
Bah, en fait, moi j'étais parti en tant qu'étudiant en master d'un master de relations internationales à Sciences Po Bordeaux dans la compréhension d'un certain nombre de conflits proches de nous. J'avais notamment fait un stage au Kosovo, puis je me suis retrouvé en Israël-Palestine pour découvrir sur le terrain, en fait, les différentes dimensions du conflit, et je suis un peu tombé dans cette marmite-là. Et j'ai été bien évidemment très impressionné par le mécanisme du mur, hein, ce qu'on appelle le mur construit donc en 2002 par Israël, notamment en Cisjordanie. Et en fait, très vite, ce terrain-là, en fait, m'est apparu comme un laboratoire politique par excellence, avec des sujets qui étaient extrêmement saillants, ou qui du moins m'apparaissaient beaucoup plus saillants que dans ma propre société, en l'occurrence la France. Le rapport à l'ethnicité, le rapport à la sécurité, à la violence, à la religion, aux mobilisations, le rapport à l'altérité. Et voilà, et j'ai trouvé que cet objet du mur, en fait, quelque part, était extrêmement intéressant, justement, pour analyser la conflictualité qui s'y passait. Et il se trouve que j'ai décidé d'avoir une dimension qui n'était pas non seulement aréale, c'est-à-dire que je ne me suis pas situé que du côté de ce que peut représenter, par exemple, le mur pour les Palestiniens ou pour les Israéliens uniquement. Je me suis vraiment situé en fait dans un point de vue de sciences politiques, d'études de sécurité, de relations internationales, pour véritablement me situer au niveau de cette politique de séparation, partir des pratiques, des éléments architecturaux, pour ensuite aller vers les mobilisations qui l'animent, hein, que ce soit côté palestinien ou israélien. Et à ce titre, j'avais été beaucoup impressionné, donc on est au tournant de l'année 2010, par des programmes de recherche qui existaient à l'époque, donc notamment le MOFIP ou le RAMSES, qui était porté à l'IREMAM autour notamment de Cédric Parizeau et Stéphanie Latté-Abdallah, qui se donnait pour objectif, en fait, d'étudier les espaces israélo-palestiniens, au pluriel, les mobilisations qui pouvaient s'y trouver, les différentes formes de frontières, les différentes formes de violence, mais aussi ce qui circulait et comment l'articulation entre séparation entre les deux populations et ces différents espaces et circulation se matérialisait. Et en fait, ça m'a donné de plus en plus envie d'analyser quelque part ce qui se situe en marge du projet national sioniste, qui se situe en marge du projet national palestinien, pour essayer véritablement de regarder le rapport à la territorialité, le rapport à la violence, le rapport à l'autre, qui sont en fait des éléments encore constitutifs de ce conflit aujourd'hui.
Vous avez dit, c'est un peu par hasard, entre guillemets, au travers de cet intérêt sur les murs et les dispositifs de sécurité, que vous tombez dans la marmite israélo-palestinienne. Vous avez fait dans votre thèse une comparaison. Est-ce que ça vous a aidé à mettre un peu à distance, justement, ce côté bouillonnant?
Tout à fait. Je pense que... Alors, c'est aussi lié à la rencontre avec Evelyne Ritten, qui avait aussi un programme de recherche sur la question des murs et du blindage des frontières. En fait, il y avait véritablement une volonté de ma part, elle m'a cité très vite, quelque part, à aller vers la comparaison. Il y avait une volonté de ma part de comprendre ce qui était spécifique à cet espace israélo-palestinien, avec une dimension géopolitique particulière, avec l'occupation des territoires palestiniens, bien évidemment, qui singularise cet espace israélo-palestinien, par rapport à d'autres cas de frontières, en l'occurrence la frontière États-Unis-Mexique. En fait, ça m'intéressait véritablement de voir que malgré les différences géopolitiques, il y a en fait des mobilisations similaires qui en Israël et en Arizona vont exiger par exemple de se séparer pour des raisons de politique interne, pour des raisons identitaires, parfois selon des conceptions racistes, par rapport en Israël du rapport à la terre également, à la territorialité, et comment cela s'inscrivait en fait dans le fonctionnement routinier de ces systèmes politiques.
Et alors, comment est-ce que vous vous êtes immergé dans ce terrain israélo-palestinien concrètement? Vous avez souvent voyagé, vous avez appris la langue. Comment vous avez commencé à vous familiariser, justement?
En fait, d'abord, je suis passé par un organisme qui permettait de rencontrer des activistes israéliens et palestiniens, un certain nombre d'ONG qui documentaient notamment ce qui se passait dans les territoires palestiniens. Des ONG également qui travaillaient à Haïfa, par exemple, sur la question des Arabes israéliens, par exemple, ou sur la question des Bédouins dans le Negev. Donc, ce qui m'a permis d'avoir, en fait, accès à tout un ensemble d'acteurs qui se mobilisent, justement, dans ces espaces. Et c'est ensuite que je me suis mis à l'apprentissage des langues, l'arabe et l'hébreu, notamment, et je me permets de citer qu'il existe à Paris une association dans laquelle on peut apprendre les deux. À l'INALCO aussi, on peut faire une licence bilangue en arabe et en hébreu. Ça existe et il y a beaucoup de proximité entre les deux langues, hein, il faut le dire, sémantique. C'est quand même très intéressant. Et j'ai davantage creusé l'hébreu pour des questions de recherche, puisque je me suis progressivement intéressé aux mobilisations en faveur du mur côté israélien, qui n'avaient pas été étudiées ou peut-être moins abordé. Donc j'ai davantage poussé l'hébreu, ce qui m'a permis de le lire en partie, de le parler, de créer aussi une manière de rentrer en contact pour des entretiens, même si certains entretiens pouvaient ensuite être menés en anglais à l'époque, mais au moins ça permettait bien évidemment de saisir tout un certain nombre de choses. Voilà.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais je pense que c'est important aussi d'avoir cette mise en contexte. Alors, quand survient le 7 octobre, dans quel état êtes-vous ? Et une question que je pose souvent par rapport aux chercheurs et aux chercheuses qui se retrouvent pris dans des situations de grande conflictualité, est-ce que vous diriez que justement le fait d'avoir étudié cette société pendant longtemps, d'être un petit peu accoutumé aussi à cette conflictualité ambiante, fait que vous étiez entre guillemets mentalement plus préparé, ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir éprouvé la même sidération que la majorité des gens? Comment vous avez ressenti ce moment?
Alors pour comprendre l'état dans lequel j'étais le 7 octobre, je crois qu'il faut revenir sur le fait que les années précédant mon recrutement à l'INALCO, moi j'étais parti en postdoc à Bruxelles, j'étais revenu sur des frontières européennes. Et en fait, et ça c'est un point commun je pense avec d'autres chercheurs qui travaillent sur ce terrain israélo-palestinien, c'est quelque part une dimension un peu de je dirais d'amour-haine, de distance, rapprochement un peu continu. Et moi, pendant quelques années, je m'étais éloigné de ce terrain-là, justement parce que j'avais beaucoup de mal, justement, à dissocier ce qu'il me faisait, de dissocier, justement, mon travail de recherche par rapport aux différentes émotions, récits, aux amis, qu'ils soient à Naplouse ou à Tel Aviv, que je pouvais connaître là-bas. Et avec mon recrutement à l'INALCO, du coup, je m'étais replongé dans la volonté justement de retourner. Et j'y suis allé quatre fois l'année dernière, justement. Quatre fois l'année dernière pour redémarrer des recherches, notamment pour s'intéresser davantage au rapport territorial de l'ingénierie militaire israélienne. Hein, c'est un peu ça vers quoi je m'étais lancé au moment du 7 octobre, quelque part. Et le 7 octobre, quelque part, a été un moment, bien évidemment, de sidération, de grande émotion. Je crois que ce qui m'a permis, quelque part, de mettre à distance tout cela, c'est de revenir aux fondamentaux du conflit, c'est-à-dire de revenir à qu'est-ce que le Hamas, par exemple. Donc j'ai beaucoup écouté des collègues où je me suis davantage plongé là-dessus. Revenir au rapport à la territorialité, notamment ces kibboutz qui ont été attaqués, qui ont quand même une histoire, qui ont des habitants particuliers, qui ont même un rapport à leurs voisins gazaouis qui est particulier. Revenir dans les fondamentaux aussi du système politique israélien. Avant le 7 octobre, il y a quand même eu des mobilisations énormes en Israël qui s'attaquaient à la nature même du régime politique israélien, et puis bien évidemment aux fondamentaux de l'occupation qui n'ont pas perduré, dans lequel cet événement a trouvé place. Donc en effet, au-delà de la sidération et du choc que ça a pu représenter d'un point de vue personnel, pour moi je me suis très vite posé la question de « Ok, qu'est-ce que cet événement va dire des continuités dans ce conflit et dans quelle forme de basculement, de changement de paramètres on va se situer ?» Et par exemple, le premier écrit que j'ai proposé au mois d'octobre, qui était dans The Conversation, c'était vraiment « Quelle est la stratégie israélienne pour Gaza ?» Moi, je me posais directement la question « Ok, comment Israël, qui est toujours une puissance occupante selon le droit international à Gaza, qu'est-ce qu'elle va faire, en fait, de cette bande de Gaza et de ses habitants ?» Je me posais la question dès, bien évidemment, le mois d'octobre. Et voilà, et maintenant, l'interrogation est permanente et d'autant plus forte avec l'évolution de la guerre.
Donc très vite, vous reconnectez ces émotions à vos questionnements de recherche. Et est-ce que, ou en tout cas, est-ce que c'est ça justement, c'est cette capacité très vite à connecter ce qui se passe à vos questionnements de recherche qui va faire du coup que vous allez assez tôt aussi aller dans les médias? Alors vous parliez de votre article dans The Conversation, vous avez fait aussi un certain nombre de plateaux télé. On va explorer un petit peu ça. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire? Où est-ce que vous estimez que vous avez la plus grande valeur ajoutée? Et puis après, on pourra peut-être parler aussi de cette question du risque en fait de l'intervention. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que vous vous dites, comme on a l'impression qu'assez rapidement vous arrivez à intellectualiser la chose, est-ce que vous vous dites, ok, je suis en mesure de pouvoir parler à un plus grand public et de répondre à des questions des journalistes?
En fait, Je crois que ce qui a poussé à l'intervention médiatique, c'est que quelque part, du côté des médias, il y a eu une volonté de multiplier les visages et les experts, notamment universitaires, et les voix, quelque part, sur ce sujet.
D'accord.
Donc en fait, il y avait quand même, dans nombre de médias, plusieurs émissions par jour, par chaîne de télé, sur ces sujets-là. Et donc, en effet, moi j'ai été assez vite sollicité, et en effet, il y a eu cette idée de se dire, ok, je veux ramener en fait des définitions, des éléments historiques, des éléments sur ce qu'est la bande de Gaza, dans ces espaces israélo-palestiniens, éventuellement de ce qu'est le Hamas, même si je ne suis pas, à mon avis, le mieux placé d'un point de vue de recherche pour ça, mais surtout, moi, mon expertise, c'était ce mécanisme d'occupation, cette mécanisme de séparation que le Hamas a brisé le 7 octobre. Hein, avec, après, je suis intervenu notamment sur Arte, sur cette image du bulldozer qui détruit le mur autour de Gaza. Donc, il y a eu une volonté de ma part, en fait, de ramener des définitions, de renommer, mais également de faire vivre véritablement une voix de chercheur, une voix de sciences sociales par rapport à d'autres types d'acteurs qui, clairement, notamment juste après le 7 octobre, ne se sont pas du tout embarrassés de précautions sémantiques, de précautions conceptuelles. Voilà, donc je crois que quelque part, je me suis dit, notre rôle était là et qu'il fallait y aller, il fallait y aller et il fallait ramener des éléments comme des termes comme le terrorisme, comme la colonisation, comme l'occupation, comme le massacre, comme le déni, etc., etc.
Alors justement, vous pointez aussi du doigt le fait que vous vouliez faire entendre une autre parole. En même temps, on le disait aussi, même un peu avant le début de cet entretien, on a très très vite compris que toute parole était minée, ou en tout cas allait mener à des formes d'exposition. Alors vous, comment est-ce que justement vous avez préparé vos interventions pour minimiser les risques de faux pas? Et en l'occurrence, ça serait quoi un faux pas dans ce contexte? Est-ce que vous vous êtes posé cette question et comment vous avez essayé de gérer ces risques de la prise de parole?
Je dirais qu'en amont de la sollicitation médiatique, c'est véritablement d'être au clair avec ceux qui vous sollicitent sur la composition des plateaux, qui est là, quelle va être la spécificité de la parole d'un chercheur par rapport aux autres invités. Ensuite, exiger de voir s'il y a eu un travail journalistique de préparation d'une trame de débat, parce qu'il a été, c'est sans doute le cas à mon avis d'autres collègues sur d'autres sujets, sur d'autres conflits. On vous invite pour commenter sans vous préciser en fait sur quoi on veut vous faire parler, ce qui montre justement que la trame journalistique n'est pas travaillée. Moi, ça m'est arrivé, donc j'ai demandé cela parce que je ne voulais absolument pas arriver pour être un commentateur de tout et n'importe quoi de ce qui se passe. On en parlait justement avant, on m'a appelé pour parler des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza à la fin du mois d'octobre. Bah, il se trouve que, à part ce que moi je peux avoir dans les médias israéliens ou ailleurs, je ne vois pas quelle est ma plus-value en fait là-dessus. Donc ça, pour moi, c'était déjà très important.
Et les journalistes acceptaient de le faire? Vous avez senti un accord de leur part de dire OK? Ou alors est-ce qu'il fallait un petit peu batailler et négocier pour avoir cette trame?
Alors certains n'acceptaient pas, c'est-à-dire qu'ils bottaient en touche en disant on vous le dira juste avant. Voilà, donc ce qui ne me semblait pas correct. Par contre, ça m'est vraiment arrivé de dire non, je ne vais pas y aller si, par exemple, il y a une chaîne de télé qui a voulu que je commente au bout d'un moment ce que la Russie pensait de tout ça. Et je leur ai dit, non, en fait, c'est pas à moi de faire ça. Donc voilà, donc on a un peu discuté. J'ai dit, moi, je pense que je peux amener, en fait, ces différents éléments-là. Mais plus largement, je crois que ça fait écho à une lecture qui, moi, m'a fait beaucoup de bien pour les vacances de la Toussaint 2023. Justement, au moment de cette sursollicitation médiatique, c'est tout simplement sur la télévision de Pierre Bourdieu. Bourdieu nous explique un peu les conditions de la parole scientifique dans le cadre de lignes médiatiques construites, justement les différentes contraintes en termes de format, de temps, l'emphase que les journalistes peuvent avoir sur l'exceptionnel par rapport à ce qui est ordinaire. Et je crois que là, moi, j'ai conçu un peu mon rôle là-dessus et ça a été d'autant plus difficile d'un point de vue aussi émotionnel. Pour moi, ce qui était le plus important, je pense, en tant que chercheur sur ces plateaux télé, c'est de faire face à un discours journalistique ou médiatique qui peut être très porté sur l'exceptionnel donc, et sur le mortifère aussi, beaucoup, dans ce cas-là, notamment en octobre. Ouais. Et nous, c'est d'amener justement ce qui est ordinaire dans ces espaces israélo-palestiniens, c'est-à-dire, par exemple, le rapport au militarisme des Israéliens, le rapport au territoire, le rapport de ces différents kibbutz qui ont été attaqués, les situations d'occupation, la situation à Gaza, les tensions qu'il peut y avoir liées à la colonisation, notamment de la Cisjordanie. Je crois que c'était là aussi notre rôle. Et ça, Pierre Bourdieu l'explique assez bien sur la télévision.
D'où peut-être, oui, ces décalages aussi, parce que dans ces moments un peu exceptionnels, le fait de ramener du régulier ou entre guillemets de l'ordinaire, quel qu'il soit d'ailleurs, ça peut donner cette impression peut-être de banaliser, en fait.
Exactement. Oui, en fait, le risque de cela, c'est de véritablement bien comprendre la construction des lignes médiatiques qui vont se baser sur notamment l'exceptionnel. Et nous arrivons avec un discours qui généralise et qui se focalise sur ce qui est ordinaire, entre guillemets. Et on peut très vite, en fait, se faire taxer, en effet, de minimiser, de banaliser, voire même d'excuser, pour reprendre d'autres termes ailleurs, ce qui se passe. Et c'est là, en effet, où notre posture de chercheur, dans des moments de tension et d'événements, dans des cadres médiatiques, est très difficile à tenir. Peut-être que nous sommes davantage équipés pour parler de ces éléments d'ordinaire de conflit sous d'autres formats, sous des formats écrits et à des moments peut-être qui sont moins tendus.
Et est-ce que justement, vous avez expérimenté ce moment où vous vous êtes dit, en fait, là, mieux vaut ne pas parler. Mieux vaut ne pas parler, pas parce qu'il s'agirait d'être dans le déni, mais parce que dans le fond, la parole ne va rien apporter. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a traversé ou non ?
Oui, si, à de nombreuses reprises. Au bout d'un moment, dans les sollicitations médiatiques, on choisit. Au bout d'un moment, on se dit, OK, là, à quel plateau je vais participer, j'ai voulu me réfugier dans des formats davantage écrits, par exemple. On pourra en reparler, notamment peut-être après, mais peut-être privilégier aussi l'action d'enseignement, parce qu'elle permet aussi, avec nos étudiants, d'avoir un autre espace dans lequel nous sommes les maîtres du format et de la temporalité, contrairement aux médias. Mais après, véritablement, je crois qu'il y a eu aussi des moments, en octobre, novembre, de fortes émotions personnelles, où là, on se dit, en fait, que... Voilà, peut-être que c'est pas le moment en fait d'y aller. Peut-être que en effet il y aura d'autres moments pour amener ce travail des sciences sociales sur ce conflit.
Alors justement, vous l'avez dit, vous êtes beaucoup intéressé à ces questions de militarisation, d'occupation, et c'est vrai que quand vous êtes intervenu aussi dans vos formats dans l'article dans The Conversation, mais vous aviez aussi donné une interview à La Croix, vous êtes beaucoup intervenu sur la question aussi de la colonisation en Cisjordanie. Donc il y avait d'une part la question des buts de guerre d'Israël, la militarisation, la colonisation. Alors, pourquoi ces angles en particulier ? Vous y avez un petit peu répondu, parce que ce sont effectivement vos angles de spécialité. Mais au vu de l'état du débat, cela vous a quand même un peu mis d'emblée dans ce fameux camp pro-palestinien. Alors, comment est-ce que vous avez géré ça ? Est-ce que vous en aviez conscience ? Et est-ce que justement, ça a été pénible pour vous de voir aussi que on pouvait quand même assister à une forme de rétrécissement du débat où effectivement tout ce qui était dit était ramené à un camp, c'est-à-dire que les mots même étaient ramenés à des camps, au-delà même potentiellement de l'analyse qui pouvait en être faite.
Et parce que, en fait, je crois que sous les formats médiatiques ou sous les formats d'intervention au moment d'un événement et d'une guerre comme celle que l'on vit, c'est tout simplement extrêmement difficile, dans les formats qui nous sont alloués, d'articuler les différentes dimensions de ce conflit. Les dimensions nationalistes, territoriales, les dimensions coloniales ou postcoloniales, les dimensions d'asymétrie, de mode de guerre, juridiques, les ingérences internationales, les dimensions religieuses, c'est extrêmement compliqué de les tenir toutes, bien évidemment. Et le risque, c'est qu'en fonction de nos spécialités et en fonction de la manière dont on va les amener, la manière dont on applique de la critique sur moi, dans mon cas, les mécanismes d'occupation, sur d'autres, le rapport à la violence qui peut s'exercer de la part des colons ou du Hamas, par exemple, dès que ce discours-là va directement vous plonger dans un camp. C'est-à-dire qu'on évolue, nous, en tant que chercheurs, à l'ombre d'un débat qui est extrêmement polarisé, où chacune de vos entrées, en fait, vous catégorise dans un camp ou dans l'autre. Alors, et puis, il y a une injonction, bien évidemment, aussi à se positionner, qui peuvent être émis, par exemple, sur des plateaux ou dans des conversations, même entre collègues ou non, au nom, justement, de conception morale, au nom de politisation particulière, d'émotion, de prise en compte et de reconnaissance des grands traumas qui animent les populations de cette région. Mais je crois en même temps que cet encampement, en fait, il est inhérent au travail scientifique même. le travail critique de toute science sociale, hein, je vais baser notamment sur Bernard Lahire notamment, c'est cette idée que nous déconstruisons, nous, en tant que politistes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois mon travail sur ce terrain-là. Nous déconstruisons parfois des mythes nationaux, nous déconstruisons des registres de légitimation de la violence, qu'elle soit armée ou asymétrique. On rompt avec les discours de sens commun. Donc, de toute façon, quoi que l'on fasse, on va être critiqué d'une manière ou d'une autre.
Et justement, c'est une question qui me vient en vous écoutant. Est-ce que vous pensez que justement les situations de crise comme celles qu'on traverse, elles sont propices justement à la déconstruction et à l'interrogation de où est-ce qu'on parle, finalement pourquoi est-ce qu'on a choisi tel objet ou telle perspective, ou alors est-ce qu'au contraire elles sont plutôt propices à la radicalisation justement parce que le format aussi, et notamment le format médiatique, est un peu cadré pour ça aussi, même si ces conflits existent aussi dans toute façon dans tous les domaines.
Oui, elles sont propices en effet à la polarisation, donc c'est là où chaque chercheur, à mon avis, doit au bout d'un moment se demander pourquoi j'irai en fait dans ces formats qui vont me polariser ou m'en camper quelque part, et est-ce que quelque part je ne peux pas défendre mes recherches d'une autre manière que sous ce format-là. Mais je crois que c'est aussi un moment très intéressant sur justement le format d'une posture dite critique, c'est-à-dire du potentiel de déconstruction que peut avoir un discours de sciences sociales par rapport à ce qui se passe. Malheureusement, dans l'événement, il est très facilement caricaturable et il est très facilement délégitimable comme ne relevant pas d'un travail scientifique, mais de l'idéologie, du positionnement. Donc c'est à la fois un moment, à mon avis, propice pour bien saisir la différence entre le sens commun et ce que l'on peut amener d'un point de vue scientifique, mais en effet, il est risqué.
Et justement, alors quelle a été la réception de vos prises de parole? Parce que vous connaissez aussi, vous connaissez les sociétés aussi que vous étudiez, vous avez aussi des collègues qui étaient aussi intervenus sur ces sujets. Alors comment est-ce que vous pouvez un peu qualifier la réception? Est-ce que vous avez été aussi éventuellement pris à partie sur les réseaux ou pas? Comment est-ce que la parole que vous portiez a été reçue, si tant est que vous ayez eu des retours?
Non, j'ai eu des retours sur les premiers plateaux par email. Par exemple, d'élus municipaux.
Ah, quand même.
Oui.
Des gens que vous connaissez
pas. Oui, il y en a eu trois qui m'ont dit que j'avais bien fait de revenir à des définitions. Donc ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Après, pas plus de prise de position que ça, véritablement. Par rapport aux gens sur place, ils m'ont pas nécessairement écouté. Mais moi, ma posture par rapport à des gens auxquels je suis assez proche, qu'ils soient en Israël ou dans les territoires palestiniens, c'était depuis le 7 octobre, justement, d'être avec eux dans un registre compassionnel, c'est-à-dire comment vous allez, se situer pour le contraire de l'activité scientifique dans le registre de l'émotion et de l'humanisation, véritablement. Moi, je n'ai pas été avec eux dans l'imposition d'analyse en disant « mais au fait ». Oui. Je les laissais, en fait, eux, m'exprimer ce qu'ils pouvaient ressentir. Donc,
Parce que ses amis, ils se trouvaient plutôt en Israël, du coup ?
En Naplouse et à Tel Aviv, pour le coup.
D'accord.
Donc, avec des postures très différentes, des sous-entendus aussi, parfois. Je pense que certains d'entre eux qui peut-être n'osent pas mettre de mots sur ce qu'ils pensent comment est-ce qu'ils conçoivent que la situation va évoluer. Mais en tout cas, avec eux, moi, je n'étais pas du tout dans une posture d'imposition de mon récit ou de mon analyse. Contrairement à des prises de position davantage scientifiques ou écrites ou médiatiques ou en France.
Plus affirmées. Oui.
Moi, pour l'instant, j'ai cultivé cette distance-là avec les gens qui sont là-bas.
Alors justement, vous disiez que dans cet autre type d'interaction, c'était le moment aussi du retour des émotions. J'aimerais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur cette question parce que on a eu beaucoup dans les débats, on a eu beaucoup de chercheuses et de chercheurs qui disaient « Bon, attention, il y a la réaction émotionnelle d'un côté et la réaction scientifique de l'autre. » Et en même temps, on est aussi en sciences sociales, dans une réflexion où on dit « Les émotions doivent aussi être intégrées au processus de recherche. » On est un peu dans ce tournant émotionnel des sciences sociales qui, d'une certaine manière, réhabilite un peu aussi la part des émotions et nous engage peut-être à ne pas les mettre aussi vite de côté. Alors, comment vous avez vous avez géré ça. Est-ce que vous aussi, vous avez tenu ce discours de dire « Bon, je sais qu'on est dans l'émotion, mais je vais vous faire la parole scientifique. » Ou est-ce que, je ne sais pas, peut-être quelque chose à vous amener à interroger peut-être plus de porosité qu'on ne croit entre les deux ?
En fait, le rapport émotionnel, il est différent quand on est confronté à un événement que quand on est sur un processus d'immersion sur des terrains beaucoup sur le long terme. Là, forcément, dans les événements, les sollicitations médiatiques dont on a parlé, il y avait cette volonté de ma part de me scinder en deux, justement, d'avoir un discours public qui est en effet du côté scientifique, du côté des définitions, etc. etc. Même si, comme je le disais tout à l'heure, bien évidemment que d'un point de vue interne, tout cela est extrêmement mélangé. Alors que sur le long terme, je crois que le fait de se détacher des émotions personnelles, des récits que l'on peut entendre sur le terrain, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, de se détacher des images également que l'on peut recevoir sur les réseaux sociaux par différentes choses. Bref, véritablement voir quelle est la dimension subjective par rapport à tout ce qui est véhiculé sur le terrain, ça c'est un travail de long terme et c'est un travail de longue haleine. Et moi je dois dire par exemple qu'il y a des dimensions du conflit israélo-palestinien que je redécouvre et auquel je me rends compte que je n'ai moi-même pas suffisamment conscience de la subjectivité que je mets dedans. Voilà.
Par exemple,
sur le rapport à l'antisémitisme ou le lien entre, enfin, le débat anti-sionisme-antisémitisme, sur la dimension coloniale du conflit, par exemple, comment est-ce que moi je l'appréhende, hein, et comment je l'ai appréhendé sur mes terrains, comment je me suis positionné par rapport à ces discours-là. Le 7 octobre, je sais que j'ai eu en fait une espèce de réflexe immédiat de plaquer ce qui se passe sur ce qui se passait, mon analyse du maintien de l'occupation, oui, du rôle du Hamas justement dans ce paysage-là, ce qui m'a fait en fait prendre du temps sur le caractère des massacres qui ont été commis, sur pourquoi le Hamas a employé ce mode d'action.
Poser la question des émotions, ça peut être aussi une autre manière de poser la question de la neutralité. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette notion de neutralité axiologique et comment vous l'avez expérimentée concrètement ?
En gros, je crois que ce travail justement de prise en compte de notre dimension subjective par rapport à ce terrain israélo-palestinien, il se fait pas bien évidemment au prisme de l'événement, du massacre, de la guerre. Je crois que c'est un processus de longue haleine qui fait qu'à certains moments, on va être attentif par rapport à ses propres valeurs, à ses propres émotions, à telle dimension du conflit par rapport à d'autres. J'ai été très sensibilisé à mon rapport au militarisme israélien, par exemple, ou mon rapport à la domination par le militaire des territoires palestiniens, par exemple, parce que c'était mon objet de recherche. C'est quelque chose... J'ai beaucoup travaillé mon rapport à la réception de discours xénophobes, racistes. Ça, c'est des choses que j'ai pu travailler par
c'était
le passé.
Votre objet.
C'était mon objet. Et là, par exemple, maintenant, ce qui s'est passé actuellement, c'est notamment, ça a fait l'objet d'un écrit que j'ai fait pour le blog Yahani. Maintenant, par exemple, je me pose par exemple la question du rapport à la potentielle recolonisation par Israël de la bande de Gaza. Et là, du coup, je retombe dans mon propre rapport par rapport à quelque chose qu'on pourrait appeler du rapport colonial post-colonial d'Israël à ce territoire-là et aux populations palestiniennes. Et là, je me rends compte que ce sont des dimensions, par exemple, que j'ai beaucoup moins travaillées d'un point de vue de ma neutralité axiologique que d'autres. De même qu'on pourrait citer le rapport à la violence parmi les groupes armés palestiniens, c'est aussi quelque chose que j'avais beaucoup moins travaillé parce que c'était moins mes objets. Et donc, du coup, j'ai été, comme beaucoup d'observateurs, absolument estomaqué par le mode d'action violent de la part du Hamas du 7 octobre. Et je me suis beaucoup questionné sur cette entité, sur le rapport à la violence qu'une partie de la population palestinienne peut avoir, parce que c'était quelque chose que je n'avais pas envisagé avant. Donc, ce travail de déconstruction, quelque part, de notre subjectivité, il est continu, en fait, quelque part.
Et je vais même aller plus loin. Est-ce que parfois, ce travail de déconstruction, il peut être un peu douloureux ?
Je vais pas utiliser le terme douloureux. Pour moi, c'est pas nécessairement douloureux. C'est-à-dire que la situation, pour moi, est douloureuse. C'est-à-dire de voir qu'il n'y a toujours pas de capacité de coexistence de ces deux peuples dans cet espace. Pour moi, c'est quelque chose sur le plan moral, individuel et subjectif qui est très difficile à gérer émotionnellement. Je dirais pas douloureux. Le fait, en fait, de transformer cette subjectivité en une source, justement, d'intérêt de recherche, malgré la situation dramatique, c'est au contraire, à mon avis, le propre d'un chercheur en sciences sociales. C'est-à-dire que, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre carrière, bah, on enrichit notre compréhension de cette situation israélo-palestinienne particulièrement inextricable.
Alors, on a parlé de plusieurs publics. Il y a un autre public que vous avez mentionné, c'est le public étudiant, puisque vous êtes aussi enseignant à l'INALCO, donc en plus avec des étudiants et des étudiantes, j'imagine, qui ont un très très fort intérêt pour tout ce qui se passe justement dans les régions non occidentales. Alors, comment vous avez géré justement aussi toute cette partie enseignement, et puis j'imagine les attentes peut-être de votre public étudiant sur ce que vous pouviez dire sur ce conflit?
Alors, moi, j'ai trouvé que le fait de parler de ce qui se passait à mes étudiants a été un véritable soulagement. Mmh. Ça a été vraiment un soulagement. Pour moi, tous les cours que j'ai donnés là, au premier semestre de l'année 2023-2024 ont été vraiment des espaces extrêmement importants, justement pour le travail de mise à distance et pour l'écoute en fait que les étudiants, notamment de master que j'avais à l'époque, ont eu. Pour donner un exemple très précis, le 13 octobre, la séance de cours de sécurité internationale était dédiée au mode d'action terroriste. Mmh. Et donc du coup, on est revenu du point de vue des études de sécurité, études stratégiques, sur ce qu'est ce mode d'action, sur son histoire, sur le contre-terrorisme également, mais aussi sur les enjeux de qualification politique. Mmh. Et moi, j'avais en face de moi des étudiants de Master 2, pour le coup, qui étaient extrêmement avides de se décaler du discours médiatique et politique ambiant. Mmh. Donc c'était pour moi un espace vraiment intéressant, de questionnement aussi, d'interrogation, de travail d'explication par rapport à ce que les sciences sociales et les RI notamment en disent. L'INALCO pour ça est un espace assez intéressant parce que nos étudiants, et parfois moi ça m'est arrivé de m'étonner de cela, semblent a priori beaucoup moins politisés que dans d'autres institutions. Mmh. Parce que les étudiants viennent à l'INALCO pour étudier des langues et toutes les dimensions civilisationnelles qui vont avec l'apprentissage des langues. Donc ils ont cette entrée par le culturel, par la diversité linguistique, une attention a priori à l'altérité qui est très fort. Alors il y a eu des tensions entre étudiants qui nous sont remontées dans la foulée du 7 octobre, mais globalement l'INALCO est resté un espace pour l'instant justement où les étudiants étaient avides justement de déconstruire un certain nombre de choses. Moi, il m'est arrivé là de donner un cours de licence justement sur le système politique israélien. Pareil, c'est un espace dans lequel on peut, dans ce cours, on peut aborder les différentes dimensions des conflits, les différentes tensions propres au système israélien, le lien entre la démocratie israélienne et la poursuite de l'occupation, notamment. Donc pour moi, tous ces espaces-là ont été des espaces plutôt réconfortant d'un point de vue de l'enseignant-chercheur.
Ouais, parce que ça peut aussi parfois, vous auriez pu aussi vous retrouver dans la position à devoir arbitrer entre des camps polarisés, ça n'a pas été le cas.
Ça n'a pas été le cas. Alors je ne peux pas parler pour mes collègues, mais en tout cas dans mes cours, ça n'a pas été le cas.
On va terminer cet entretien, Damien Simoneau, si vous le voulez bien, par la question insolite. Vous qui avez travaillé sur l'obsession des murs, et j'imagine que peut-être vous préfériez les murs à abattre, est-ce qu'il y a des murs que vous aimez bien ?
Oui, les murs qui évoquent quelque chose de positif, c'est le quatrième mur au théâtre, puisque c'est le mur invisible qui est censé séparer les acteurs, la scène, du public, et qui fait l'objet, dans de nombreuses pièces, d'une tentative de franchissement, plus ou moins réussie en fonction des spectacles. Pour moi, c'est un mur qui est plutôt positif et intéressant.
Vous allez nous donner à méditer. Merci beaucoup, Damien Simoneau, d'avoir été notre invité dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité. It up, burn it up, hotter than hot, hotter than hot, take a sip from the cup.
up, it don't quit till we melt the snow off the mountaintop. Friendly flames of fire lift us up and take us higher, higher than the Himalaya, way up to Mount Sinai. I see the smoke, the cloud of Kaya, night and day it don't expire, like a sacrificial pyre. Scorching hot, my not touch the wire. I got the torchlight, let me guide us through big deserts and quagmires. And even in the darkest time, like Marcus Messiah, we smite the vicious vipers, the cunning conniver shall get burned like paper tigers. But it's your friendly fire music, shining bright, true and lucid. That's why we got to introduce it to the world and distribute it for free. You're free to boost it, turn up the sound and don't reduce it. Keep it toasted till the rooster. Yes, we don't need no water. Let that bomb or cloud burn. Catch a fire, it's your turn and let it burn.